Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Changemaker Stories. Aujourd'hui, je suis avec Géraldine Olivier. Tu es la directrice RSE de Fnac Darty.
Oui, c'est ça. Bonjour également à toutes et à tous. Je suis ravie aussi d'être avec toi ce matin pour qu'on puisse échanger ensemble.
Et bah, trop bien, parce qu'on a des gros sujets à voir, parce que tu es quand même à la tête écologique, environnementale, sociale d'un groupe qui pèse dans le monde et en France. Et l'idée, c'est de comprendre... Comment est-ce qu'on fait pour transformer un groupe de cette taille-là?
Ouais.
Et pour commencer, j'aimerais bien comprendre ton parcours, d'où est-ce que tu viens et comment est-ce que tu es arrivée à cette position de directrice RSE?
Alors, mon parcours, moi, j'ai essentiellement... donc, j'ai fait une école de commerce et puis j'ai un parcours essentiellement dans le domaine des achats. Et puis, en fait, finalement, ce qui m'a conduit à la RSE, c'est deux choses. Quelque chose de plus personnel et puis quelque chose aussi, une opportunité fantastique d'un point de vue professionnel. Alors sur le personnel, en fait, moi j'ai une fille de 20 ans qui a 5 ans, elle avait 15 ans. Et là, ça a été vraiment une période de challenge d'un point de vue personnel, des discussions en famille sur ce sujet-là. Et qui fait que ça a aussi conduit à me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire, la façon dont aussi les entreprises peuvent s'organiser sur ces sujets. On voit que c'est un sujet qui est vraiment important pour vous qui êtes étudiant à l'IESEG. Et donc ça a contribué aussi finalement à cette volonté que de changer. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, et ça, c'est vraiment... j'ai la chance d'être chez Fnac Darty et qu'on ose des mobilités chez Fnac Darty qui correspondent finalement aussi à des appétences des individus. Et le grand changement, ça a été en février 2021 avec le lancement d'un nouveau plan stratégique, le plan stratégique Everyday, et qui a mis la RSE vraiment au cœur du business model. Donc, on n'est pas dans une RSE un peu hors sol, on est vraiment avec la RSE qui est intégrée au sein du business model. Et donc, on propose de prendre la direction de la RSE à ce moment-là. Et je vous avouerai que de se dire que je participe à quelque chose qui est fondamental, qui est maintenant au cœur de la stratégie, c'est quelque chose qui me correspond. C'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et donc, c'est la conjonction, finalement, d'appétence personnelle, d'un momentum professionnel, d'une stratégie qui se met en place, qui fait que, voilà, c'est le déclic.
C'est les étoiles qui
s'alignent. Et donc, en septembre 2021, je reprends la direction de la RSE du groupe Fnac Darty. Donc, elle existait déjà depuis 2012. Mais c'est vrai qu'avec ce changement, ce plan stratégique, et puis d'ailleurs, à l'occasion de ce plan stratégique, on a réaffirmé notre raison d'être, qui est s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. Et donc, on voit bien dans cette... raison d'être, tout ce sujet autour de la RSE et comment je transforme à la fois de l'intérieur, mais comment aussi j'incite les consommateurs dans une consommation plus durable.
C'est marrant, est-ce que c'est ta fille qui t'a éduqué sur ces enjeux ou c'est parce que tu t'es dit génération future, il faut que je fasse attention, donc tu t'es auto-éduqué là-dessus? Parce que souvent...
C'est les deux, en fait. C'est les deux, c'est des échanges... corsée, costaud. En plus, elle a du caractère, elle est comme sa mère, tant mieux.
C'est souvent le cas.
Et il ne faut pas raisonner égoïstement et se dire qu'effectivement, il y a c'est des traînes qui sont assez longs. Et pour changer les choses, il faut s'y mettre dès maintenant. Et même si je ne verrai pas forcément tous les changements, il y a quand même derrière nous un certain nombre de générations qui vont être là et on ne peut pas laisser une planète dans un état déplorable pour les générations futures. Alors, c'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais en tout cas, moi, ça m'interpelle et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu ce switch-là.
Ouais. Mais c'est la simplicité du message aussi, je trouve, qu'il le rend assez vrai. Tu disais que la RSE était implémentée dans le business model. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai l'impression que souvent, la RSE, elle peut être attachée ou alors à une direction juridique. Et dans ce cas-là, on essaye plutôt de faire attention à être dans les clous. Ou alors, elle peut être attachée à une direction communication. Et là, c'est là où
c'est limite
il faut faire attention au greenwashing. Ou alors, elle est rattachée à une direction générale. Et à ce moment-là, c'est plutôt souvent la volonté des actionnaires qui se transmet dans cette vision RSE. De chez Fnac Darty, comment ça se traduit, ça?
Alors, nous, c'est aucun de ça, en fait. En fait, je suis rattachée à la secrétaire générale du groupe Fnac Darty, Frédéric Giavarini. Dans le secrétariat, donc qui est membre du COMEX Fnac Darty, dans le secrétariat général, il y a à la fois la direction juridique, la direction des risques, la direction RSE et tout ce qui tourne autour de la DPO et de la protection des données personnelles. Et puis, Frédéric, elle a une double casquette, hein, puisqu'elle est aussi DG de Nature et Découverte, qui est une société Bicorp. Je trouve justement que la RSE de Fnac Darty, en étant rattachée à Frédéric, qui a cette double casquette, finalement, c'est quelque chose qui est un peu différent par rapport à d'autres entreprises et qui fait qu'aujourd'hui, ça marche et qu'on a la bonne impulsion. Et puis, le deuxième élément important, je le disais au risque de me répéter, mais c'est inscrit dans le business model. Donc, tous les salariés du groupe sont aussi sensibilisés sur ce sujet-là. Et puis, ce qui fait la force aussi de notre modèle et la façon dont on anime la RSE chez Fnac Darty, c'est qu'on a fait le choix d'une gouvernance très décentralisée. Donc aujourd'hui, la direction de la RSE, donc rattachée au secrétariat général, on n'est que 3. Donc on pourrait se dire quand même...
Pour un groupe de quelques milliers de salariés, ça fait pas beaucoup.
Voilà, on est 25 000 collaborateurs, chiffre d'affaires de 8 milliards. On pourrait se dire, est-ce que finalement, c'est pas un peu du greenwashing, je veux dire, uniquement 3 personnes. En fait, non, tout ça n'est pas bien grave parce qu'on a fait, donc, encore une fois, le choix d'une gouvernance décentralisée. Et ça veut dire que sur un certain nombre de sujets, que ce soit le climat, la durabilité, l'économie circulaire, la RSE au sens le plus large du terme, on a nommé, alors quand je dis on, c'est même les membres du COMEX qui ont nommé dans leurs équipes des référents. Et donc, on se réunit régulièrement avec ces référents. On anime des comités avec ces différents référents. Alors, ces comités, ils sont sous l'égide d'un ou deux membres du COMEX. Ça change aussi les choses. Et un truc tout bête, mais par exemple, l'invitation pour ces comités part directement de l'agenda membre du COMEX. Donc, inutile de vous dire que ça mobilise aussi et ça fait que les gens sont mobilisés en interne. Et en fait, pourquoi c'est gagnant, en fait, d'avoir cette gouvernance décentralisée? C'est qu'il y a une stratégie qui est définie, effectivement, au niveau de la direction de la RSE. Mais si on veut que ça fonctionne, il faut que les opérationnels, finalement, prennent ce sujet-là et déploient dans leurs entités, en fait, les plans d'action. Et donc, grâce à cette comitologie, à ces référents, on est sûr qu'on n'a pas une direction RSE hors sol et que les projets sont bien implémentés vraiment dans chacun des périmètres. Par exemple, le climat, on est sur des sujets de décarbonation. On a des sujets aussi qui sont inscrits dans le plan stratégique de parité et de diversité. Donc là, c'est pareil. On est très en lien, notamment avec nos équipes des magasins, pour justement avoir ce sujet bien en ligne de mire. Puis, il y a quelque chose dont je suis particulièrement fière qui a eu lieu en 2023. C'est qu'au-delà de ces référents, on était quand même au niveau directeur, manager. On a décidé de lancer un réseau de référents RSE directement en magasin. Donc aujourd'hui, dans tous nos magasins en France, Fnac et Darty intégrés, parce qu'on a aussi pas mal de franchisés, en tout cas déjà dans nos magasins intégrés, il y a un référent RSE et il est là pour à la fois pouvoir communiquer la stratégie au plus près, donc des collaborateurs qui sont dans le domaine de la vente, sur tous les sujets, que ce soit de parité, de climat, de durabilité. Et ça, c'est quelque chose qui, justement, rajoute une pierre dans notre structure, justement pour faire que la RSE infuse vraiment dans l'ensemble du groupe.
Et alors, on est quand même sur un podcast qui s'appelle Changemaker. Aujourd'hui, tu as pris la tête de ce... J'imagine que ce n'est pas forcément que très facile de mettre en place, même s'il n'y a pas forcément de résistance au changement forte dans un groupe de 25 000 personnes. Il doit y avoir des blocages, des freins. Et c'est quoi tes combats en tant que au quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour essayer d'implémenter de façon concrète ce dont tu me parles là?
Alors, je dirais que ce n'est pas vraiment des combats parce que, encore une fois, le fait que ce soit dans la stratégie et suivi au plus haut de l'entreprise et même par les membres du COMEX, puis avec toute cette comitologie, finalement, les gens sont quand même très impliqués. C'est plutôt les difficultés qu'on peut avoir. C'est finalement lié à notre business model en tant que tel, puisque nous, l'essentiel, en fait, de nous, par exemple, c'est le sujet du carbone, qui est quand même un sujet important,
ouais.
c'est le scope 3, c'est les émissions indirectes, c'est les produits que nous vendons. 90% du bilan carbone du groupe Fnac Darty, c'est les produits qu'on vend. Contrairement à d'autres, on n'a pas la main mise sur le cahier des charges. Alors, ouais. on l'a sur une petite partie parce qu'on a des marques propres, mais l'essentiel des choses qu'on commercialise en magasin ou sur le web, finalement, c'est on s'adresse à des fournisseurs et on n'a pas, on n'a pas la main mise sur le cahier des charges. Et donc, c'est comment faire que nous, Fnac Darty, on puisse inciter nos fournisseurs à faire mieux différemment. Et donc, si on veut que nos fournisseurs aussi agissent différemment, comment on incite nos clients à finalement opter pour des produits qui sont plus durables. Quand on pense à durabilité chez Fnac Darty, on pense à allongement de la durée de vie des ouais. produits, hein, puisque voilà, quand on vend un produit, l'émission carbone liée à ce produit, l'essentiel, c'est la fabrication. Donc, plus j'allonge la durée de vie de mon produit et plus j'amortis sur une plus grande période cette phase de fabrication. Et donc, il y a vraiment un sujet d'allonger la durée de vie. Et donc, on se met, nous, en ordre de bataille pour inciter nos fournisseurs à faire des produits qui sont plus fiables, qui sont plus réparables. Et puis, nos clients, à les inciter à faire ce choix de ces produits qu'on met en avant. Et puis, surtout, et ça, c'est important, à réparer plutôt que remplacer. Et là, on a développé tout un arsenal, de services, de communication sur le sujet pour justement être au cœur de ce sujet de la durabilité. Donc en fait,
de la réparation du coup aussi ?
Ah oui, on est très très impliqué sur la réparation. On est nous, le groupe Fnac Darty, le premier réparateur en France. C'est des milliers de collaborateurs hein, qui sont sur ce sujet-là, que ce soit dans nos ateliers, on a 6 ateliers en France, et puis vous savez les fameux petits kangous avec nos réparateurs à domicile et qui viennent chez vous aussi réparer à domicile. Donc on est très impliqué sur ce sujet de la réparation.
Est-ce que tu as l'impression que la RSE peut être un frein au développement économique d'une activité d'un groupe aussi gros ? Tu vois, tu me disais un des sujets pour vous c'est le business model parce que vous n'avez pas forcément la main sur le cahier des charges de vos fournisseurs. Quand on dirige un groupe qui vend essentiellement du matériel high-tech, électronique, donc effectivement, c'est la fabrication qui a l'impact le plus important. Est-ce qu'en fait, la RSE vient juste freiner ce développement ?
Non, ça ne vient pas freiner parce qu'en fait, je dirais que ça ouvre les chakras et ça nous donne des opportunités que de repenser le business. Donc, par exemple, bien sur ce sujet de vendre des produits, c'est comment finalement je diversifie mon chiffre d'affaires et je commercialise des services. Donc là, on n'a pas ce sujet de l'empreinte carbone. Donc, on a un service qui est emblématique, qui est Dartimax, qui est un abonnement en illimité à la réparation et donc qui permet à la personne qui conclut cet abonnement à réparation et maintenance de pouvoir couvrir un certain nombre d'électroménagers aux produits techniques qu'ils étaient achetés chez Fnac Darty ou non, et d'avoir un service de réparation en illimité. Ces abonnés, d'ailleurs, bénéficient tous les ans la possibilité d'avoir un échange avec un technicien en visio pour avoir des conseils sur l'usage, la maintenance des appareils, parce que en fonction des catégories de produits, on sait que parfois, en moyenne, 50% des pannes pourraient être évitées par une meilleure réparation, une meilleure maintenance. Et donc, nos abonnés d'Artimax bénéficient de ce service-là. Donc, je dirais que opposer systématiquement économique et RSE, en tout cas chez Fnac Darty, ce n'est pas le cas parce que ça nous a donné l'opportunité de créer de nouveaux services. Si on parle, de sobriété énergétique, c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Quand on parle par exemple, un gros sujet, c'est la décarbonation de nos transports. Hein. Donc, le transport entre nos entrepôts et puis nos magasins, nos entrepôts et le client final. Repenser les schémas de transport pour éviter des livraisons qui réussissent pas du premier coup. Finalement, c'est aussi à la fois un impact carbone, d'accord, parce que j'optimise et j'essaye que je livre en une fois et c'est bon, c'est terminé. C'est aussi un impact économique. Donc, je dirais qu'on n'est pas dans l'opposition stricte entre l'économie et la RSE. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet majeur sur cette opposition, en fait.
En tant que directrice RSE, c'est quoi pour toi? Comment est-ce qu'on fait pour embarquer un groupe de cette taille? Donc, tu me disais qu'il n'y avait pas forcément de combat parce que ça venait aussi d'en haut. Mais j'imagine qu'il y a quand même des façons, des techniques, des conditions à mettre en place pour qu'on puisse implémenter une sorte de... en fait, pour que ce soit une idée commune et pour que ça infuse. Alors, même implémenter un référent RSE dans un magasin, c'est bien, mais comment est-ce que cette personne-là peut avoir la possibilité de motiver les équipes, de ne pas être toute seule dans son travail? Comment est-ce qu'on fait pour en faire un projet global, en fait?
Alors, si on reprend là sur nos référents RSE, ils ne sont pas lâchés tout seuls dans la nature.
J'imagine.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une coordination avec le directeur de magasin, avec le directeur des ventes. On a mis en place.
C'est un travail à plein temps, référent RSE?
Non, le référent RSE, c'est une partie de son, une partie de son job au quotidien. On a mis en place une plateforme aussi, justement, qui permet à nos référents RSE qu'on puisse communiquer, leur partager un maximum d'informations. On organise des challenges donc tous les 3 mois. Donc, ça, c'est des challenges qui durent 4 mois sur un sujet en particulier. La durabilité, le climat. Alors, le premier temps fort qu'on a fait, c'était la RSE Kesako. Donc, on leur donne des informations et puis on leur fait faire des challenges individuels, mais aussi collectifs pour embarquer, en fait, l'ensemble du magasin. Et c'est comme ça que, finalement, on embarque, enfin, avec nos référents, c'est pas seulement un référent dans un magasin, c'est bien tout le personnel du magasin. Et puis, avec ces challenges, il y a aussi une sorte d'émulation puisqu'il y a un peu de concurrence et de gamification entre les différents magasins. Et c'est vraiment super parce que vraiment les premiers mois, on a lancé ça en septembre et on a vraiment une remontée d'initiatives, partout dans le groupe, que ce soit sur la gestion des déchets, la communication autour de la seconde vie, qui est vraiment formidable. Et sur le reste, du groupe, au-delà des comités que j'ai évoqués, on organise aussi un certain nombre d'événements dans l'année, une journée RSE. On a animé des ateliers d'automne. On a d'ailleurs fait le choix puisqu'on a aujourd'hui une académie de formation en interne chez Fnac Darty, de former nos propres formateurs à l'atelier d'automne. Et ce qui va permettre, du coup, sur 2024, ça a commencé en 2023, mais ça va se poursuivre en 2024, de pouvoir aussi diffuser l'information. On a un rapport RSE qui nous permet aussi, qui est largement diffusé et communiqué. Et puis, on travaille beaucoup avec la communication interne pour pouvoir faire des focus sur profiter d'événements extérieurs et faire des focus sur, finalement, ça se traduit par quoi chez Fnac Darty. Et puis, le dernier petit point qui joue aussi et qui a son impact, c'est qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs qui ont une rémunération variable, donc il y a quand même un certain nombre de collaborateurs qui ont une rémunération variable dans le groupe, ont une partie de leur rémunération variable qui est indexée sur un critère RSE. Alors, ce n'est pas un critère RSE, hors sol et commun à tout le monde. On demande justement à chacun de nos référents RSE dans le comité RSE qui sont dans chacune des filières opérationnelles et support d'avoir une discussion avec leur comité de direction sur leur feuille de route et de fixer à l'ensemble de leurs équipes, de leur direction, un critère RSE qui est sur un point majeur, un point saillant de leur feuille de route. Donc, par exemple, les équipes des opérations qui sont sur des sujets de transport, ça va être plutôt un objectif de décarbonation. Au niveau de l'exploitation, par exemple, donc, l'année dernière, il y a un sujet de parité. Donc ça a été mis dans les critères RSE. Cette année, on a nos référents RSE. Donc, c'est comment on fait que ce réseau de référents RSE puis vivre et continuer à être animé.
Et c'est quoi alors les gros changements qui vont arriver, les gros projets qui sont dans les bacs pour le groupe?
Il y a quand même un sujet, et ça qui est commun, je dirais, à bon nombre d'entreprises, hein, c'est l'arrivée de la CSRD.
Ouais.
La CSRD, qui est la
nouvelle... Comptabilité socio-environnementale
exactement,
très spécifique.
Donc, qui fait que ça oblige les entreprises à repenser leur reporting extra-financier, puisque l'idée donc de la CSRD, c'est bien d'avoir un certain nombre de KPI qui sont standards et de pouvoir faire une comparaison finalement plus facile entre les entreprises. Mais ça implique au niveau à la fois de la RSE, mais pas que, de la direction des risques et puis surtout de la direction financière, de se mettre en ordre de bataille et d'avancer sur ce sujet-là. Ça peut être vécu comme contraignant et ça l'est quand même, hein, parce qu'il y a quand même une partie réglementaire et de reporting qui est contraignante. Mais je pense que ça va aussi nous servir collectivement pour pouvoir aller justement un cran plus loin dans l'incitation et dans donner du sens à nos opérationnels qui travaillent sur un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est le grand sujet, je dirais, de l'année me concernant et concernant ma direction. Et puis, je l'évoquais aussi tout à l'heure, on a un gros sujet sur le scope 3. Ouais. Donc, d'autant plus important qu'on a maintenant des objectifs qui sont certifiés par le SBTi et sur l'ensemble de nos scopes, hein, scope 1, 2 et 3. Alors, sur le scope 1 et 2, il a été déposé au SBTi, mais il faisait déjà partie des objectifs qu'on suivait à haut niveau parce que c'était dans le plan stratégique. Donc, on a un objectif sur les scopes 1 et 2 de réduire nos émissions carbone de moins 50% en horizon 2030 versus 2019. On est sur le bon trend. Hein, à 2023, on était à moins 26%. Et là, maintenant, c'est de travailler sur le scope 3 et d'embarquer nos chefs de produits sur ce sujet-là, donc de les faire monter en compétences et qu'on ait aussi des dialogues aussi plus fournis et plus intenses avec nos fournisseurs pour pouvoir optimiser et la phase de fabrication et la phase d'utilisation qui sont finalement, quand on regarde l'ACV d'un produit, les phases les plus carbo-intensives dans la vie d'un produit.
Ouais. Et donc ça veut dire potentiellement poser des ultimatums à des fournisseurs qui sortent d'un cahier des charges.
On n'a pas la main mise sur le cahier des charges. Le déréférencement, pas forcément. En revanche, on a aujourd'hui beaucoup d'outils incitatifs pour justement mettre en avant les fournisseurs qui produisent des produits qui sont les plus fiables et les plus réparables. Aujourd'hui, vous allez et sur nos sites internet ou en magasin, vous avez des produits avec un label, une étiquette choix durable. Et donc ça, c'est incitatif pour nos clients, mais donc aussi pour nos fournisseurs qui ont plutôt intérêt à avoir ce logo-là, parce qu'on observe quand même, quand on logote un produit, une augmentation du chiffre d'affaires et des parts de marché. Donc, on est plutôt sur l'échange avec nos fournisseurs plutôt que le déréférencement. Alors, je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas un jour, mais là, on est plutôt sur l'aspect, partenarial. Et ce qui joue aussi pour nous, c'est qu'on observe aussi au niveau des consommateurs, je pense notamment à la consommation énergétique, c'est quelque chose qui est de plus en plus regardé, la fameuse étiquette énergétique. Ouais. Et donc finalement, nos fournisseurs sont obligés, pour répondre à l'attente de leurs clients, de pouvoir aussi répondre positivement aux attentes des consommateurs. Donc je pense qu'entre ce qu'on nous on met en avant, ce que les clients veulent, il y a quand même des choses qui vont faire bouger tout notre écosystème.
Ouais, une sorte de convergence.
Et de convergence, on ne peut pas ignorer ce sujet de la consommation, de la fabrication et de produits moins carbo-intensifs.
Oui, super intéressant. D'ailleurs, pour conclure, est-ce que tu as un point là-dessus? Parce que j'ai l'impression qu'on est à un moment un peu charnière où il y a une sorte d'éveil du consommateur sur ces sujets. Alors, parce qu'effectivement, il y a des prix énergétiques qui augmentent énormément, parce qu'il y a un besoin de plus de sens dans la consommation, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui tire vraiment le groupe aussi dans cette transition, ou est-ce que c'est plutôt l'offre qui avance et qui tire les consommateurs?
En fait, c'est les deux. Parce que, encore une fois, quand je disais tout à l'heure, notre raison d'être, c'est s'engager pour un choix éclairé, une consommation durable. Donc nous, vraiment, on a la volonté d'être un retailer engagé et donc de faire tout ce qu'il faut pour inciter les consommateurs, les éclairer sur ce sujet-là. Et vraiment, on observe aussi des consommateurs cette volonté d'être sur ces sujets environnementaux, de réparation. Et on voit vraiment, par exemple, notre abonnement à Dartimax. Là, on a franchi le cap du millionième abonné en octobre. On est à plus de... Là, on est à 1 million. À fin 2023, on était à 1 million 125 abonnés à ce service. Donc, on voit vraiment qu'il y a un changement de paradigme. Mmh.
et un réflexe justement sur de faire réparer plutôt que de remplacer ce qu'on faisait.
Mais écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à partager? Tiens, c'est quoi ton espoir pour les prochaines années, que ce soit au sein du groupe ou que ce soit sur cette consommation justement?
Ça va être un peu bizarre ce que je dis, mais je pense que l'espoir que j'ai, que je pourrais avoir, alors pas tout de suite, hein, mais c'est que finalement la direction RSE, elle disparaisse. C'est que finalement, la RSE, ça soit nativement, partout dans l'entreprise, ouais. Au sein des opérations. Alors on va se dire, mais elle est folle, voilà. Bon, ben, il y aura d'autres opportunités, mais je pense que le jour où finalement on n'a plus de direction RSE et que c'est vraiment dans chacune des filières opérationnelles et des fonctions support, ben, finalement c'est là où on a gagné. Mmh. Et je pense qu'avec la CSRD, même si en tout cas cette année c'est un peu, voilà, y a beaucoup de choses à mettre en place et ça peut être vécu comme un peu painful, ça aussi ça va aider parce qu'il y a vraiment un certain nombre de KPI, ça couvre vraiment l'exhaustivité des sujets, que ce soit de gouvernance, sociétaux, sociaux, d'environnement, diversité, pollution, biodiversité, pollution, etc. Et ça va inciter justement les groupes à repenser complètement le modèle d'affaires sous ce prisme-là. Donc, c'est là où ça va nous aider. Et puis, peut-être qu'un jour, il n'y a plus de direction RSE.
Bon, on espère qu'il n'y aura plus de direction RSE alors. Merci beaucoup, Géraldine, pour ce moment. Et puis, merci à vous si vous êtes encore là à nous écouter. C'est que vous êtes notre auditeur préféré. Je vous invite à liker le podcast, à laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à progresser. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Salut Géraldine.
Merci, au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Changemaker Stories vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en nous laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes préférées, Spotify et Apple Podcasts. Ah oui, et aussi, partagez ces histoires autour de vous, elles méritent d'être connues. Changemaker Stories est un podcast de l'ISEG School of Management et ISED Network, produit par ECOS Studio. À très bientôt.